VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Dakar, midi à Niamey, bienvenue à notre journal. Au Niger, l'opposition politique et des organisations de la société civile exigent la mise en accusation du président Mahamadou Issoufou après l'affaire de confiscation d'importantes devises par la douane nigérienne à l'aéroport de Niamey en août. Des douaniers avaient alors saisi près de 9 milliards de francs CFA sur plusieurs Nigérians et aussi des Nigériens. Mais sur instruction express des autorités nigériennes, ils avaient dû par la suite, contre leur gré, rendre ces sommes aux intéressés. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Il n'y a toujours pas de réaction et d'explication officielle sur la scabreuse affaire de restitution d'importantes devises, près de 9 milliards de francs CFA, aux fraudeurs nigériens et nigérians interceptés à l'aéroport de Niamey par la douane en août dernier. Face à ce mutisme, des voix s'élèvent pour exiger des comptes. C'est ainsi que les partis politiques de l'opposition, coalisés dernièrement avec des syndicats et associations de la société civile en Front patriotique et républicain, exigent une mise en accusation du président de la République pour haute trahison.
On peut affirmer sans embâge que la responsabilité du président de la République qui a juré sur le Saint-Coran de respecter et de faire respecter la Constitution ainsi que d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est engagée. Par conséquent, le Front patriotique et républicain demande au groupe parlementaire de l'opposition d'initier instamment une procédure de mise en accusation du président de la République pour violation de son serment et pour haute trahison.
Dans la déclaration publique, le FPR estime que cette affaire et bien d'autres illustrent à suffisance un banditisme d'État instauré au haut niveau depuis 4 ans et ce pour 2 raisons principales.
Si en l'espace d'une semaine, une dizaine de milliards de francs a été saisi sur la seule plateforme aéroportuaire de Niamey, combien de milliards ont été dissipés en 4 ans de gestion? En réalité, toutes ces pratiques ne visent qu'un double objectif. Premièrement, sécuriser les ressources induites, accumulées à l'occasion des différentes opérations de corruption et de blanchiment, ainsi que d'autres opérations illicites. Deuxièmement, constituer à M. Mahamadou Issoufou, alias Charlie, et à son parti, le PNDS, un trésor de guerre dans la perspective des élections de 2016.
Les partis politiques de l'opposition et les syndicats et associations de la société civile ont demandé au procureur de Niamey de se saisir très vite de cette affaire pour la tirer au clair. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré suit son cours à Dakar au Sénégal. Après la lecture de l'ordonnance de renvoi hier, le balai des experts et des témoins a enfin commencé. Le compte-rendu de notre correspondante sur place, Sokhna Natambaye.
Il s'agit surtout de définir le contexte historique, mais aussi de cerner la personnalité de l'ancien chef d'État. Celui-ci est présenté par l'historien Arnaud Dingamadji comme un homme brillant, fier et prêt à tout pour le pouvoir. Il est revenu sur la période entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Pourtant, vers le début des années 80, l'ancien président a été apprécié par certaines puissances telles que la France ou les États-Unis. Ces pays ont été à ses côtés dans sa guerre contre le défunt dirigeant libyen Mouhamad Kadhafi. Washington a financé cette entreprise à hauteur de 12 milliards de francs, soit 25 millions de dollars. Paris, de son côté, a fourni le matériel et le personnel militaire nécessaire. Autre expert convoqué, Yahara Gassama Diop, de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Selon le parquet, la dame a été excusée suite à un empêchement de dernière minute. Concernant les témoignages, ils étaient aussi poignants les uns que les autres. Ousmane Abakar, victime et cultivateur au moment des faits.
Nombre de mes collègues ont été ou ont disparu. Beaucoup sont morts en prison suite au mauvais traitement, à la torture. Je rentre maintenant au pays avec l'esprit serein et plein d'espoir que le procès qui vient de commencer aboutira à un verdict juste et équitable.
Après la lecture de l'ordonnance de renvoi, c'est un sentiment de délivrance partielle qui habite les victimes. Clément Abefouta, président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré.
Nous avons reconnu dans cette lecture nos noms, ceux de nos frères et sœurs tchadiens, ceux de nos parents. Aujourd'hui, dans le monde entier, nul ne peut ignorer l'étendue des horreurs que le peuple tchadien a subies de 1982 à 90.
Les avocats de la défense continuent de bouder la salle d'audience. Maître Georges-Henri Bautier, de la partie civile, lui, a émis une réserve après la lecture de l'ordonnance de renvoi.
Nous allons soulever la question qui n'a pas été tout à fait toujours reprise par l'ordonnance de renvoi, qu'il était pour nous souvent à la fois l'exécutant direct et à la fois le supérieur hiérarchique. C'est simplement demander qu'on prenne acte de nos réserves, qu'on va plaider, on joue franc jeu.
Le défilé des témoins et des experts se poursuit. Le régime d'Abré a été mis à nu, ainsi que ses méthodes de torture. Lui, par contre, était muet comme une carpe, même quand il a été appelé à la barre, toujours enturbanné. Une requête a été adressée à la chambre afin qu'Abré retire son turban. Mais le juge a décidé de ne pas statuer pour l'instant. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle a publié la liste des candidatures validées pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Un total de 10 candidatures, dont celle du président sortant Alassane Ouattara. Jean-Roger Bion.
Les principaux candidats seront présents en face du président sortant Alassane Dramane Ouattara. Il y aura Pascal Affi-N'Guessan, candidat d'une frange du FPI de Laurent Gbagbo. Il faudra également compter sur des dissidents du PDCI qui ont décidé de faire la course seuls, comme Charles Konan Bani et Amara Issi. Les autres candidats retenus sont Siméon Konan Kwadio, Henriette Lagoua Djoa, Mamadou Koulibaly, Kwadio Konan Bertin, Jacqueline Claire Kouangwa et Kaku Nyangbo. La campagne électorale va s'ouvrir le 9 octobre et s'achèvera le 23 octobre à minuit. Devançant l'annonce officielle de la liste, les opposants les plus virulents au président Ouattara ont d'ores et déjà contesté sa candidature et a appelé à manifester aujourd'hui jeudi, brandissant la carte de son inéligibilité.
En RCA, la mission de l'ONU MINUSCA condamne la série d'attaques à la grenade menée par des inconnus armés à Bangui, qui a fait plusieurs morts et blessés hier soir. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Il est 19h local lorsque les assaillants en tenue militaire dont l'identité n'est pas encore connue ont largué la première grenade devant le marché de Pétévo. Selon un haut responsable de la police, 4 personnes ont perdu la vie sur place et plus d'une dizaine d'autres blessés. Toujours selon la police, les mêmes personnes ont largué une seconde grenade dans un bar dancing. Ici, on compte 2 morts et des blessés. La troisième explosion enfin s'est produite à quelques mètres de là, précisément à Kitengiri où les 3 hommes à moto ont encore fait des victimes. Pour l'instant, l'attaque n'est pas encore revendiquée. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ces crimes afin qu'ils répondent de leur forfait devant la justice centrafricaine, précise le communiqué de la MINUSCA. Et on sait à toujours, le pape François se rendra fin novembre en Centrafrique. C'est ce qu'annonce l'AFP en précisant que le souverain pontife visitera également le Kenya et l'Ouganda pendant cette prochaine tournée sur le continent africain. Et puis en RDC, plusieurs centaines de cas de violation des droits humains enregistrés dans le pays au mois d'août. C'est ce qu'a révélé hier un rapport de l'ONU sur place. Les explications de José María Aranaz, directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme, au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 409 violations des droits de l'homme dans les mois passés, où la majorité violations des droits de l'homme à l'Est. Les provinces plus touchées sont les provinces orientales, Nord Kivu et Sud Kivu. Les agents de l'État seront responsables de la majorité des violations des droits de l'homme, avec 216 violations des droits de l'homme et 330 victimes. Et il faut souligner qu'on a enregistré 20 cas d'exécutions sommaires extrajudiciaires. Les FRDC sera responsable des nombres plus élevés de violations des droits de l'homme, avec 93 violations enregistrées, suivi par la PNC. Il faut aussi souligner qu'on a enregistré 24 violations des droits de l'homme qui ont un impact direct sur la crédibilité du processus électoral à l'avenir.
José María Aranaz, directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme à Kinshasa. Et pour terminer, la Russie confirme la présence de ses militaires en Syrie. Michel Joseph.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué mercredi dans une déclaration que des experts militaires russes sont en Syrie pour aider l'armée syrienne à maîtriser l'utilisation des armes russes. Selon Madame Zakharova, ces équipements doivent aider l'armée syrienne à faire face à la menace terroriste qui, a-t-elle dit, a atteint des niveaux sans précédent en Syrie et en Irak.
Les pays occidentaux se disent de leur côté préoccupés par un plus grand soutien de l'armée russe au régime du président Bachar al-Assad. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.